Vous écoutez Présence, une série de cartes postales sonores réalisées et lues par des enfants et des jeunes de toute la France pour vous faire découvrir des textes de théâtre contemporain. Il est 9h du matin et il fait déjà bien chaud quand nous arrivons au collège Chappe de Marseille, tout en haut de la rue qui y monte. Les collégiens que nous allons enregistrer aujourd'hui ont pendant l'année lu plusieurs livres de théâtre jeunesse et leur choix s'est porté sur un texte de Gwendoline Soublin, dont la lecture prend ici, dans cette ville regorgeant de soleil mêlé de drames et quelquefois de larmes, tout son sens. Cette lecture, ces moments de rencontre, vont nous donner à partager une belle leçon de vie qui résonne dans l'émotion de ces jeunes et qui, j'espère, viendra jusqu'à vous. Gwendoline Soublin nous a livré une petite histoire de son enfance. La voici. J'ai 9 ans. Ce jour-là, je suis patronne de salon de coiffure. Ma petite sœur m'amène son enfant pour une coupe. Armée de mes plus beaux ciseaux, je fais voler les cheveux synthétiques blonds de la poupée dans ma chambre. Et voilà, madame, ça fera 10 francs. Quelques jours passent. J'entends ma mère crier « Mais qu'est-ce que vous avez fait à vos jolies poupées? Qui a fait ça ?» Ma petite sœur pleure, accusée par ma mère qui vient de découvrir une pelote de cheveux blonds cachée dans une couverture, elle-même enfouie dans une tente, elle-même dissimulée dans un empilement près de ma chambre. Je fais celle qui ne sait rien, n'entend rien, discrétion maximale dans le salon. Je deviens la Mega Drive à laquelle je joue. J'ai 9 ans et je ne deviendrai pas coiffeuse. J'ai 9 ans. Ma sœur de 5 ans ne me balance pas. Qu'on se le dise, les sœurs aînées ne sont pas toujours un modèle, et les plus petits, des paratonnerres. À la question « Pourquoi écrivez-vous pour la jeunesse ?», voici ce que Gwendoline Soublin nous a répondu. « Pour toujours m'étonner, pour revenir aux fondamentaux, pour pouvoir dire « C'est quoi ? Pourquoi ? Vraiment ?» Parce qu'écrire pour la jeunesse, c'est avoir le droit d'être curieux et le devoir de le rester. C'est avoir le droit de ne pas savoir et le devoir de ne pas dire « je sais ». Parce que les enfants sont des philosophes et que comme eux, je cherche souvent à comprendre pourquoi le monde est comme il est. Parce que la joie est l'aventure. Parce que le chagrin. Parce que le dire. Parce que les enfants ont droit à des histoires fortes, complexes, nuancées et qui leur donnent, au bout du bout, envie de vivre.
Depuis très petit, Nono avait toujours dit « Le jour de mes 10 ans, ce sera la grande fête, l'immense fête, la gigantesque fiesta. » Il avait souvent répété, Nono, que 10 ans c'était un âge important. Un âge tout rond qui dit qu'on n'est plus tout à fait très petit, mais pas encore tout à fait trop grand. De ses 10 ans, Nono en parlait tout le temps. « Quand j'aurai 10 ans, la vie ne sera plus pareille. »
« Plus pareille comment ?»
Ça sera autrement à 10 ans de vivre ma vie, c'est sûr.
Mais ce sera comment?
On avait beau insister, Nono faisait des mystères. Il parlait de ses futurs 10 ans comme d'un âge lumineux, comme d'un âge où tout finit et tout commence aussi. Il disait même parfois, Nono, qu'à ses 10 ans, il aurait une révélation.
Sur quoi?
Une révélation.
T'es fou, il est fou. Il avait tout prévu, Nono. Depuis qu'il était en âge d'y penser, dans un petit cahier appelé « Cahier de ma fiesta », il avait tout noté. Le nombre d'invités.
8. Le nom des invités. Wiza, Tom, Boubacar, Elvis, Leila, Cassiopée, Augustin, Joao.
Le parfum des gâteaux.
Chocolat, banane, citron, meringue et Smarties.
La couleur des guirlandes en papier.
Doré dans le salon, chlorophylle dans le couloir.
Les jeux qu'on ferait ce jour-là.
Chaise musicale, chasse au trésor, concours de lancer de crêpes.
Il avait réfléchi aussi aux musiques que son père diffuserait pendant la boum.
La playlist n'était pas tout à fait prête, mais il y aurait très certainement un morceau de sa chanteuse préférée, Aya Nakamura, et il se voyait déjà chanter Dja Dja en bougeant ses bras tels des tentacules de pieuvre.
Il avait même imaginé, Nono, comment il s'habillerait ce jour-là.
Jeans en trous, chemise nickel et casquette stylée.
Un peu de gel dans les cheveux.
Une goutte de parfum de papa dans la nuque.
comme il serait beau, Nono, le jour de sa fiesta pour son premier slow.
Car oui, Nono en était certain. Le jour de ses 10 ans, il poserait la bouche sur la bouche d'une fille.
Mais il hésita encore.
Serait-ce Louisa ?
Serait-ce Leila ?
Ou peut-être Cassiopée, qui avait certes de très grosses lunettes, mais de très beaux yeux derrière.
À la fiesta de mes 10 ans, je ferai un discours.
Répétait Nono depuis qu'il avait vu son tonton Patrick faire un discours au mariage de sa tata prune.
Un discours sur quoi, Nono ?
Un discours sur le monde, tel que je le vois, tel que je le vis, tel qu'il devrait être. Un discours sur ma vie, tel que je l'imagine, tel que je la pense, tel qu'elle deviendra.
On ne comprenait pas toujours ce qu'il racontait, Nono. Il utilisait des mots impressionnants qui nous faisaient taire.
Il parle bien, Nono.
C'est vrai que 10 ans, c'est pas rien.
Mon père dit qu'à ses 10 ans, mon papy lui a fait boire du vin.
Non.
Si, mais coupé avec de l'eau.
C'est pas rien, 10 ans, c'est sûr.
C'est sérieux, 10 ans, si on peut boire du vin à l'eau.
J'ai hâte de les avoir.
Il a raison, Nono. Moi aussi, quand j'aurai 10 ans, quelque chose changera.
Quoi ?
Quelque chose, je sais pas encore.
Et si 10 ans, c'était le début de la vraie vie ?
Une vie où on irait chercher le pain à la boulangerie sans adulte.
Une vie où on donnerait la main à celui qu'on aime sans rougir.
Une vie où on parlerait le langage des plus âgés avec, dans nos phrases, le vocabulaire des gens responsables et très ridés. Nonobstant, circonstanciellement, déplorant.
Une vie où on n'aurait plus de croûte aux genoux ni de morve au nez.
Une vie grandiose, oui.
Déjà, on rêvait à la fiesta de nos 20 ans, avant même d'avoir fêté nos 10.
La fiesta de mes 20 ans sera la plus belle fiesta de tous les temps.
Un mois avant son anniversaire, Nono avait officiellement remis ses invitations.
Il avait tout fait à la main, avec ses plus beaux feutres.
L'invitation s'appelait fiesta.
Et elle collait au doigt tant Nono avait mis de paillettes dessus.
Jusqu'à 21h ?
Wow, yes ! C'est jusqu'au bout de la nuit ça, 21h !
Ça va être une sacrée fiesta chez Nono. J'ai hâte.
On était prêts. Fin prêts.
Depuis des années, on n'attendait que ça.
La fiesta des 10 ans de Nono.
C'était comme si pendant les 9 ans de notre vie, on n'avait jamais fait que se préparer pour ça.
Le jour des 10 ans de Nono.
La promesse de cette journée si singulière, tant espérée.
On était prêts. Fin prêts.
Et puis...
La tempête Marie-Thérèse... avait débarqué.
Appeler une tempête Marie-Thérèse ? Qui avait eu l'idée ?
Au journal, il répétait en boucle.
La tempête Marie-Thérèse menace de détruire le pays entier. Elle pourrait faire s'écrouler les immeubles, s'affaisser les maisons. Elle pourrait emporter dans ses grands souffles d'air les tramways et les piétons, les chihuahuas et les poussettes.
D'abord, les gens n'y avaient pas trop cru à cette tempête qui portait un nom de grand-mère.
Nous non plus, on n'y croyait pas trop.
On continuait à faire des roulés-boulés dans l'herbe sèche du square.
On continuait à courir après les pigeons en imitant une meute de loups affamés.
On continuait à rêver avec Nono à la fiesta de ses 10 ans.
Aux 10 ans que nous aussi, on aurait après lui, qui était notre aîné.
Et puis, le vent avait commencé à souffler.
Doucement au début, comme un courant d'air frais.
Et puis au fil des jours, sa force avait augmenté.
Attention, ton cartable.
Je m'envole.
Donne-moi ta main.
La tempête Marie-Thérèse tapait contre les vitres.
Elle sifflait, lugubre, dans les cages d'escalier.
Pour rentrer de l'école, il fallait se tenir la main très fort.
Et parfois s'accrocher aux troncs des arbres sur le chemin pour ne pas trébucher.
Le ministre avait déclaré.
Les personnes âgées doivent rester chez elles.
Combien de temps cette tempête va-t-elle encore durer, monsieur le ministre ?
Effectivement, dès le lendemain, la tempête s'était amplifiée.
Et parce que marcher dehors avec tout ce vent devenait quasi impossible.
Parce que les voitures valdinguaient à cause de la force de Marie-Thérèse.
Parce que même le bitume grondait sous les pieds prêt à être arraché.
Alors le ministre avait annoncé.
En attendant que la tempête se calme, nous devons tous rester chez nous. Tous, à l'exception des gens exceptionnels qui font tourner ce beau et grand pays.
C'est comme ça qu'on s'était retrouvés chez nous.
Nous, les enfants non exceptionnels qui ne servaient pas à grand-chose.
Même l'école avait fermé.
Le maître envoyait des exercices à faire.
Mais Marie-Thérèse cassait les câbles.
Marie-Thérèse rongeait les fils.
Et la connexion Internet zozotait.
On était ravis de ces vacances inattendues.
Ravis d'être tous ensemble.
Chez nous.
Dans notre grand immeuble.
dans notre petit quartier.
Aux tours plus hautes que trois montagnes.
On regardait par nos fenêtres Marie-Thérèse déplumer les sapins de leurs aiguilles.
Arracher les poubelles du ciment.
Rafraîchir le soleil de son souffle glacé.
En se demandant combien de temps encore cela durerait.
Mais on était bien ensemble.
Tous ensemble, dans le même immeuble.
Puisqu'il était interdit d'aller dehors.
On se retrouvait dans les couloirs de nos étages respectifs.
Près des ascenseurs.
Parfois chez l'un,
souvent chez l'autre.
Et on jouait au vent qui souffle le plus fort et emporte dans son tourbillon les enfants maigrichons.
Au secours !
On arrive !
Au secours, aidez-moi !
Accrochez-vous à ces nuages, madame !
Au secours !
Accrochez-vous à cet oiseau, monsieur !
Lancez-lui votre ceinture !
Au secours 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 ! Au secours !
Oui, on s'amusait bien.
Dans notre même immeuble,
les adultes, eux, faisaient grise mine.
Certains devaient quand même aller travailler, d'autres sortir pour faire les courses.
Pour ne pas que Marie-Thérèse les ventile, ils avaient inventé des astuces très marrantes.
Mon père met des paquets de farine dans ses poches. Ça le rend plus lourd et le vent ne peut pas le kidnapper.
Ma mère aussi, elle fourre des boules de pétanque dans son manteau.
Mon frère, lui, il a badigeonné les semelles de ses baskets avec de la superglue. Comme ça, il tient bon au sol.
Moi, ma mère, elle refuse de sortir travailler. Elle dit qu'elle n'est pas équipée pour ça et que le ministre doit lui offrir des chaussures à crampons ou des bottes à scratch.
Ma mère, elle n'a pas de farine, pas de boules de pétanque, pas de crampons et elle a peur de son patron qui l'oblige à venir travailler.
Mais alors, elle fait comment ?
Comme d'habitude, elle va au boulot à pied, mais elle s'accroche à tout sur son chemin.
Elle s'accroche aux lampadaires ?
Elle s'accroche à tout ! Aux lampadaires, aux voitures, aux plots, aux barrières, aux arbres, aux feux rouges, aux rebords des trottoirs. Elle court très vite d'un panneau publicitaire à une sculpture rouillée. Très vite d'un parterre de fleurs en gravier à un stop.
Elle ne s'est jamais envolée ?
Non, mais parfois, la nuit, je rêve qu'elle tourbillonne dans le ciel et qu'elle disparaît.
On s'amusait bien ensemble.
Tous ensemble, dans les couloirs de notre immeuble qu'on espérait solide.
On oubliait d'avoir peur. Ensemble, tous ensemble.
Enfin, tous ensemble, pas vraiment.
Car Nono, lui, n'habitait pas notre immeuble.
Non, Nono, lui, habitait l'immeuble d'en face.
Et depuis nos fenêtres, souvent, on voyait son ombre triste. Nous rappelait que bientôt, il fêterait ses 10 ans.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Avait râlé la mère de Joao.
Quand la toute première boulette avait cogné contre la fenêtre de son salon.
Et c'était coincé entre la jardinière et la vitre.
Cette Marie-Thérèse, elle met le bazar partout ! Mets ça à la poubelle, Joao !
Joao avait bien failli la jeter, la boulette.
Et puis, il avait senti ses doigts collés au papier.
Il y avait des paillettes dessus.
La boulette était un message de Nono.
Un message tout droit envoyé depuis l'immeuble d'en face. Et que Marie-Thérèse avait propulsé à la vitesse de l'éclair jusqu'au salon de Joao.
Fiesta des 10 ans pas annulée. Rendez-vous dans 7 jours.
Pas annulée ?
T'es sûr qu'il a écrit ça ?
Fiesta des 10 ans pas annulée. Rendez-vous dans 7 jours.
C'est bien ce qui est écrit.
Mais comment on va faire si Marie-Thérèse souffle encore ?
Dans 7 jours, ça sera fini, Marie-Thérèse, non ?
Ça sera forcément fini. Ça peut pas souffler toute la vie, une tempête.
Faut lui répondre.
Oui !
On avait pris une feuille blanche et Boubacar avait écrit
« Ok, bisous !»
De toutes ses forces, Leïla avait balancé la boulette en face, vers la fenêtre de la chambre de Nono.
Mais Marie-Thérèse avait renvoyé la boulette à contresens.
Alors on avait écrit « Ok, bisous !»
et balancé à nouveau.
Mais la boulette avait tapé contre la fenêtre d'un autre immeuble.
« Ok, bisous !»
On avait changé de fenêtre. « Ok, bisous !»
On avait tenté d'envoyer la boulette depuis la chambre de Leïla.
Les toilettes de Cassiopée.
La cuisine de Tom. Les salons de Louisa, Tom, Boubacar, Elvis et Augustin.
Sans succès.
Faisons plutôt un avion.
Un avion.
Ça flottera mieux dans les airs.
Ok, bisous.
D'une main précise, Tom avait envoyé le message.
L'avion avait glissé le long du bras venteux de Marie-Thérèse.
S'était lové dans son coude bourrasque.
Avait repris de la vitesse le long de ses mollets sirocco.
Et enfin, d'une pichenette d'orteil tramontane, Marie-Thérèse avait tiré droit au but.
L'avion avait cogné contre la fenêtre de la chambre de Nono.
Yes !
L'ombre de Nono avait ouvert la fenêtre et pris l'avion.
Victoire ! Victoire !
C'est alors que le vent s'était mis à souffler, à vous faire mal aux oreilles.
Au loin, on avait vu la mère de Louisa rentrer de son travail à l'épicerie.
Elle courait et parfois Marie-Thérèse la faisait s'envoler, quelques centimètres au-dessus de la route.
Sur les derniers mètres, la mère de Luisa avait sauté de toutes ses forces.
Et atteint le hall de notre immeuble de justesse avant que Marie-Thérèse ne l'emporte.
Le souffle court, les joues pourpres. Luisa avait blêmi.
Le soir même, le Premier ministre avait fait une déclaration dans la télévision.
J'invite tous les habitants de notre pays à rester chez eux.
Même les gens exceptionnels, monsieur le ministre?
Même eux, oui. Nous devons attendre que Marie-Thérèse se calme. Dedans est moins dangereux que dehors. Je décrète donc le tous dedans dès maintenant.
Dès maintenant.
Nous avons entendu les voix de Youssef, Andrea, Gabi, Valentine, Rahim, Habib, Belinda, Isia, Valide, Mathieu, Lorenzo, Alia, Méline, Melville, Livia, Inaya, Judith, Samarcande, Marilou, Andiane, Baya, Marianne, Angèle, Lucien, Sarah, Abel, Missac, Madeleine, Lucie, de la classe de 6e de Lucille Dautry, du collège Chape à Marseille. Ils vous ont lu le texte de Gwendoline Soublin, Fiesta, publié aux éditions Espace 34. Cet enregistrement a été réalisé dans le cadre des actions culturelles menées par la géniale et rayonnante équipe du Théâtre Massalia. Cette carte postale sonore est diffusée dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, coordonnée par Scène d'enfance à Citège France. Elle a été produite par Emmanuel Soler pour le projet Minute Papillon. Les musiques ont été composées par Vincent Burlot. Vincent Burlot en a fait aussi le montage et l'enregistrement. D'autres cartes postales sonores peuvent être réécoutées sur le site de Radio Agora à Nanterre ou sur le SoundCloud de Minute Papillon. Vous pouvez écouter la discussion des élèves autour de la question « Qu'est-ce qu'une leçon de vie ?»